à toutes et à tous. Bienvenue dans Résonance sur Radio B. Notre invitée aujourd'hui est une femme. Elle est artiste plasticienne et photographe. Son travail nous parle de l'image sous tous ses aspects, sens et construction, matière, couleur, lumière et transparence. Témoin passionnée de la vie quotidienne, dont elle révèle la spiritualité et magnifie la dimension rituelle à travers ses séries, photographe des choses simples auxquelles elle confère beauté et noblesse dans ses portraits, paysages et natures mortes, délicatement mises en scène, Véronique Elena est une artiste singulière que nous sommes très heureux d'accueillir ici, à ce micro, dans Résonance. Elle est attentive à tout ce qui fait la poésie et la profondeur du quotidien. La beauté simple du monde qui nous entoure est au cœur de ses préoccupations. Son œuvre articule plusieurs questionnements. La place de l'homme dans la société, l'environnement et sa symbolique, le rapport à l'art et à la spiritualité. Véronique Elena est l'invitée de Résonance. Résonance, Alain Goudard, une émission mise en onde par Simon Deborne. Bonjour Véronique Elena.
Bonjour Alain.
Merci de nous accueillir ici, dans cet atelier, un atelier temporaire, votre atelier temporaire, mis à disposition sur le site de l'AFPA. Alors, pour nos auditeurs, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, ici à Bourg-en-Bresse, pour un projet spécifique, artistique et participatif intitulé « Mémoires intimes ». Un projet que vous conduisez depuis plusieurs mois dans ce territoire et que nous allons découvrir petit à petit au cours de notre échange. Mais peut-être en premier lieu, Véronique Elena, on pourrait peut-être commencer par là. Comment cet attrait pour l'image, cet attrait pour la photographie s'est affirmé en vous et vous a donné l'envie finalement de construire tout un chemin de vie au travers de cette expression?
Je pense que ça a commencé très très jeune. Oui. C'était familial, mon papa faisait beaucoup de photos.
Oui.
Et ensuite, j'ai eu... vraiment une révélation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça,
oui, mais oui.
Si.
En tout cas, ça s'est imposé.
Ça s'est imposé, qu'il n'y aurait rien d'autre dans ma vie qui me permettrait d'être que d'être artiste, en fait. J'avais envie d'écrire, de peindre, de faire de la photo. Il n'y avait pas du tout de gradation dans ce que j'avais envie de faire.
C'est ça.
Mais c'était être artiste qui était la seule solution pour moi.
Oui, donc ça, déjà passionnant. Donc du coup, vous vous êtes essayé à toutes ces manières de faire, ou est-ce qu'il y en a une qui a été un petit peu plus privilégiée qu'une autre, le côté plus plastique, ou est-ce que c'est déjà même l'image en tant que telle, parce qu'effectivement vous évoquez que votre père photographiait, et de se dire tiens, moi aussi comment l'image pourrait me parler, ou comment je pourrais avoir un regard par rapport à ce que lui avait comme position par rapport à la photo?
Non, c'était plutôt comme quelque chose qui était vraiment ancré dans notre petit quotidien,
c'est
comme ça.
Ouais.
Mais c'était plutôt, je voulais d'abord écrire, enfin ouais. J'ai beaucoup, beaucoup écrit. Et puis après, j'ai rencontré M. Villat,
oui,
en seconde
sûr.
Au lycée Lalande.
Alors ça va parler, on peut peut-être déjà lever un petit voile, si vous me le permettez, Véronique Elena. C'est-à-dire de dire que vous êtes originaire de Bourg-en-Bresse. Alors quand on entend le nom de M. Villat, ça évoque chez beaucoup de personnes d'une certaine génération le lycée Lalande, les arts plastiques, et quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses justement sur la cité à ce moment-là.
C'est ça. Il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et il a repéré en moi, qui était une petite punk que aucun prof ne voulait soutenir, un potentiel grain de mauvaise herbe qui va peut-être pousser et faire un truc qui sera finalement peut-être un champ, un pré ou que sais-je.
Il a eu raison de cultiver cette mauvaise herbe.
faut croire, en tout cas, il y a cru. Et donc, ça a été très important pour moi, qui était vraiment en rupture, pas en rupture scolaire, mais presque quand même. Ouais. Et il y a eu lui et M. Mogenest, qui était le prof de français, qui ont vraiment repéré la petite mauvaise herbe et qui se sont dit, bon, on va essayer de pas la faire exclure du système scolaire.
Voilà.
Et donc, là, à ce moment-là, je faisais aussi de la musique. J'étais bassiste dans un groupe.
Oui.
Mais je n'étais pas une bonne musicienne. Il ne faut pas non plus rêver.
En tout
mais...
cas, la basse, c'était plutôt un instrument intéressant, justement, à explorer. Donc, basse électrique ou...
Basse électrique, on était quand même des gros punks, en fait.
Voilà.
Et donc, il y avait la musique. On allait tout le temps au concert. Et ce qui nous a aussi beaucoup rendu heureux, en fait.
Oui.
On aimait beaucoup... la musique, et puis l'image, la peinture est arrivée avec Villatte, en fait.
C'est ça. C'est par son approche, par ce qu'il vous proposait, que petit à petit, peut-être de lier aussi le rapport du son et le fait que de passer aussi après vers l'image, ça avait du sens aussi.
Énormément de sens, beaucoup de sens. Et puis, on adorait les pochettes de disques, par exemple.
Bien
ça
sûr.
A été vraiment quelque chose d'important.
Là, on avait les vinyles encore à l'époque.
On avait
le travail
vinyles,
de ces
sûr.
Pochettes.
Bien sûr,
incroyable.
Et les pochettes de disques étaient vraiment des choses incroyables à découvrir, quoi. Et lui, il avait pas de barrière, donc autant il pouvait nous parler de monorique, on pouvait lui parler d'une pochette de disque, quoi.
C'est
il y avait pas de
il y avait vraiment pas de censure dans les choses,
au contraire
ouvrir le plus possible de fenêtres,
c'est ça.
Donc vous avez saisi toutes ces fenêtres qui petit à petit vous ouvraient des horizons et...
En tout cas, il me semble. Enfin, c'était pas très conscient à l'époque, mais rétrospectivement, quand j'y pense, oui, c'était très important.
Et donc du coup, hop, ces fenêtres s'ouvrant, ces chemins se dessinant aussi devant vous, j'imagine qu'ils vous ont amené à aller ailleurs, ou est-ce qu'il y a un côté qui petit à petit, autour de toutes ces possibilités, c'est un peu plus affirmé que les uns que les autres?
Oui, c'est ça. En fait, je suis allée aux Beaux-Arts, d'abord à Dijon, et là, il y avait un labo photo, et ça a été très important comme découverte. Et j'ai commencé à travailler la photo à ce moment-là, vraiment.
C'est ça.
Et j'avais envie de faire des photographies toujours. Ça, en fait, on en reparlera, mais ça
Bien
parle
sûr.
Toujours de la même chose. C'est les petites choses simples ou la culture populaire qui devient des grandes choses ou de l'art avec un grand A.
C'est ça. Il y avait déjà tout de suite... Et là, on y reviendra, effectivement, je dirais, cette philosophie de fond qui commençait à vous habiter et qui allait construire, justement, à partir de là, votre démarche artistique jusqu'à aujourd'hui.
Bah, carrément. Ouais, c'était déjà là. Et j'avais fait des romans photos quand j'étais au Beaux-Arts à Dijon.
Alors, je fais le parallèle, mais effectivement, vous évoquiez le côté punk tout à l'heure musical. Mais en même temps, si on regarde tout ce côté du mouvement punk aussi de la musique, c'était toute une manière d'être en rebond par rapport au phénomène sociétal, identitaire, affirmer une autre manière aussi de se positionner. Alors certes, qui troublait par rapport à la norme sociétale de l'époque, mais c'était aussi une manière d'aller chercher ailleurs aussi et de positionner les choses ailleurs. Et quand vous évoquez finalement cette découverte au travers du labo photographique à Dijon, où ça commence à vous amener vers ces choses simples, c'est peut-être ceux et celles qu'on ne voit pas d'habitude. Là, il y a un positionnement politique quelque part, comme le positionnement punk était très politique aussi.
C'était très politique. Et en fait, ce que je fais, c'est très politique.
C'est ça.
Toujours. Bien sûr, il y a l'histoire de l'art, il y a toutes les références à la peinture, mais c'est un vrai positionnement politique ce que je fais.
Totalement. Totalement. C'est ce qui m'a semblé aussi passionnant et aussi en préparant cette émission et en travaillant aussi un petit peu autour des différents documents que j'ai pu rechercher autour de votre parcours. Et du coup, si on reste aussi un peu sur ce côté politique aussi des choses, finalement, votre démarche, elle m'a envoyé un écho d'un autre artiste qui lui aussi a une démarche politique aussi par rapport à... Il est cinéaste, il a fait la photographie, et il s'intéresse aussi à ces choses du quotidien, à tous ces individus sur lesquels dont on ne parle pas trop. Et il s'agit de Pedro Costa. Pedro Costa, il est portugais. Hein, et chez lui, la photo ou la caméra prend acte de la singularité radicale de chacun des êtres filmés, qu'elle capte leur mutation par rapport à tout ce qui tend à les définir par avance, y compris et surtout avec les meilleurs sentiments du monde. Et puis aussi, Pedro Costa, quand il rencontre tous ces gens-là, il mute, il se transforme. Lui aussi, il bouge dans cet environnement et il va ailleurs. Et c'est aussi un petit peu tout cela qu'il nous fait partager justement au travers de ces différentes réalisations qui ne sont pas du tout ni de l'ordre du reportage ni de l'autre, mais qui sont bien une patte particulière qui nous font pénétrer justement à peut-être à des essentiels aussi de la vie. Et il me semble, c'est pour ça que je fais ce lien avec Pedro Costa, que quelque part il y a des préoccupations communes, en tout cas des ponts ou des passerelles qui me semblent pouvoir exister entre votre démarche et celle de Pedro Costa.
Mais tout à fait. Je le connais pas du tout. Oui. Et c'est vous qui me le faites découvrir. Mais la phrase que vous avez lue, ben, tout ce que vous avez dit dans cette phrase, je me sens proche, quoi. Oui. C'est-à-dire découvrir les gens, leurs mutations, pas avoir d'a priori, dans vraiment l'empathie totale, pas de jugement. Et puis, je sais plus ce qu'il y a de dit, mais c'est tout me correspond à 100%, quoi.
En tout cas, ça a été un signal, je me suis dit, ah, voilà, là, il y a des correspondances. Et pour nos auditeurs, s'ils le souhaitent, il y a un très bel ouvrage aussi où il rencontre, où il y a un dialogue entre Pedro Costa et Jacques Rancière, philosophe français, qui pose un regard aussi sur cette démarche à la fois cinématographique, parce qu'il s'intéresse beaucoup au cinéma, Jacques Rancière, à l'image et à tout ce qui concerne autour de l'image. Et en même temps, il apporte aussi un éclairage aussi sur les démarches. Donc ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, je vous encourage à aller découvrir ce livre autour de Pedro Costa. Donc du coup, il y a aussi cette phrase, et je me disais qu'il prononce aussi également par rapport au cinéma, et qui peut-être aussi pourrait vous convenir, peut-être. Il souligne que, pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est être là. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, également pour vous, Véronique Elena, pour moi, la photographie, c'est ça, c'est être là.
Bien sûr, c'est être là à 100%. Alors, vous savez comme moi que c'est très difficile d'être là à 100%.
Tout à fait.
C'est même un chemin de vie, on va dire.
Oui, je pense.
Et on a vachement tendance à s'échapper de plein de manières différentes. Donc, la présence à 100%, elle est très importante quand on rencontre les gens, quand on rencontre les paysages, quand on rencontre les objets. Et c'est vraiment une philosophie, non, mais c'est
une attitude,
c'est vraiment ce que je souhaite. Après, des fois, c'est compliqué et c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire et qui est comme une quête.
Oui, voilà. Parce qu'elle est à la découverte de l'autre, c'est pas simple. Ça veut dire que si on veut essayer de percevoir celui qui arrive, d'une part parce que celui qui arrive, c'est un nouveau venu, c'est quelqu'un qui va nous interpeller, qui va nous obliger à sortir de notre zone de confort, peut-être à nous désabriter. Alors, est-ce que je suis disponible à ça? Est-ce que je ne suis pas disponible? Est-ce que je vais laisser toutes les portes ouvertes ou chercher, peut-être dans ce qui peut me paraître fermé, les ouvertures? C'est un peu tout ça aussi.
Oui, et même au-delà de ça c'est très juste. C'est vraiment se laisser surprendre par l'autre et par la différence et par ce qu'on découvre. Mais c'est aussi ses propres limites qu'il faut forcer, quoi. C'est-à-dire ses propres peurs ou ses propres, on va dire... c'est ça, ses propres limites, en fait.
Oui, ça, il y a vraiment quelque chose d'important. Et peut-être... Un autre parallèle qui me semble aussi, ou en tout cas zone de liaison forte aussi avec la démarche artistique de Pedro Costa, c'est qu'il y a aussi le phénomène, il faut aussi du temps pour rencontrer l'autre. Il faut aussi du temps pour pouvoir essayer de franchir aussi, vous évoquez nos propres limites, pour essayer de trouver cet espace-là qui va être très particulier. Et là, c'est aussi toute une démarche, le rapport au temps.
C'est ça, c'est quand on dit qu'on fait quelque chose de politique, par exemple, prendre le temps, c'est quelque chose de très politique, parce qu'on est dans un monde où on n'a plus jamais le temps, et c'est très... c'est vraiment se positionner avec politiquement de dire que il faut du temps pour faire les choses, et c'est très très quelque chose auquel je tiens très fort. Par exemple, je travaille beaucoup à la chambre avec des négatifs, avec des poses longues, et ça prend beaucoup de temps, même pour faire les photos. Et même maintenant où le projet, je le fais au numérique, je travaille sur pied, je fais des photos en longue pause, et je prends beaucoup de temps pour chaque personne. Et ce temps-là, c'est un luxe, et en même temps, c'est un positionnement politique, quoi.
Totalement. Et du coup, cette démarche, on évoquait un petit peu votre parcours, finalement, au travers de tout ça, vous avez pu l'imposer, c'est-à-dire cette vision, cette affirmation forte d'une posture politique dans cette démarche artistique. Petit à petit, vous avez pu, entre guillemets, l'imposer assez facilement.
Bah, c'est toujours une lutte, hein. Et puis même vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de... Parce qu'on n'a jamais plus le temps de rien faire, quoi. Et donc, non, c'est toujours une lutte. Mais c'est une lutte, une quête, voilà. Et bien sûr, j'essaye de l'imposer. Et je dis, oui, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de tout ce temps-là, quoi.
Voilà. Et du coup... il y a aussi, petit à petit, on y reviendra, parce qu'effectivement, le projet dont nous allons parler tout à l'heure, un peu plus, va en parler, va le mettre en exergue. Il y a aussi le prendre le temps de s'installer dans des lieux, de regarder, de voir aussi ceux et celles qui y habitent, et comment, petit à petit, entendre aussi, peut-être leur dire, leurs paroles. Quelquefois, ils vous livrent aussi des choses. C'est aussi tout ça, cette approche aussi des uns et des autres, et de mise en lumière aussi de ces personnes.
Bah, le temps permet ça, en fait. Ouais. Parce que si on ne fait que passer, on survole les choses, et les gens ne viennent pas se confier, ou on ne rencontre pas avec le grand R, la rencontre, quoi. C'est pareil avec, par exemple, je suis ici à l'AFPA, dans cet atelier, je suis entourée de machines. Eh bien, en fait, ces machines me parlent, en fait. Enfin, je les rencontre, vraiment. J'imagine. Alors, ça a l'air un peu perché de dire ça, mais en fait, non.
Non, bien
et
sûr.
Ce lieu que je connaissais pas du tout a vraiment une histoire que... c'était pas du tout prévu, mais je suis en train de faire des photos ici, par exemple.
Ouais, j'imagine. Voilà. Petit à petit, je dirais, vous glissez dans les pas de ce lieu aussi, et dans ce qu'il peut être. Et là, c'est tout aussi un principe aussi de est-ce que je m'impose dans les lieux, ou au contraire, est-ce que je vais chercher à voir comment il résonne, comment il me parle, comment il provoque aussi un imaginaire aussi au fur et à mesure.
Ah bah oui, c'est très important. C'est vraiment se glisser dans les choses qui est fondamental, et pas du tout venir avec toutes ces certitudes et puis les imposer, c'est le contraire.
Alors, du coup, on peut continuer aussi le parcours, hein, comme ça, que vous avez pu avoir. Vous êtes allé aussi, vous avez quitté la France aussi à un moment donné, pour vous rendre aussi en Belgique, à Bruxelles, à l'École nationale supérieure des arts visuels. Et puis là aussi, il y a une autre rencontre. Gilbert Fasteneikens,
je ne sais pas si
voilà, que je prononce comme il faut. C'est aussi un artiste emblématique aussi. Et là, vous allez le rencontrer. Il développe tout un travail photographique aussi très spécifique, mais je pense qu'il va certainement alimenter totalement votre démarche. Il est reconnu pour être un pionnier de la photographie documentaire et artistique. Et puis, ses œuvres se concentrent principalement sur les lieux et bâtiments, ainsi que leur mutation. Et je pense qu'effectivement, quand on regarde un peu votre travail d'aujourd'hui, ce qui s'est fait, et quand on regarde aussi un peu le travail de cet artiste belge, voilà, on sent bien que là, il s'est passé quelque chose d'important dans cette rencontre.
Absolument. Déjà, il s'est passé que je suis allée en Belgique et que j'ai quitté la manière d'enseigner française. Et j'avais beaucoup de mal avec la manière d'enseigner en ouais. France. Les Beaux-Arts, bah déjà, vous avez compris que bah, au lycée, c'était pas là. Ouais. Voilà. même si j'ai eu le bac et tout. Mais, et après, aux Beaux-Arts, ça s'est encore...
Encore un peu plus imposé.
Voilà, imposé que je n'étais pas formatée pour l'enseignement en France. C'est-à-dire ultra compétitif... Ouais. Comment faire émerger un artiste ben, en France, c'est en lui disant qu'il est nul et qu'on va voir comment il réagit à ça. Enfin, il y avait tout un tas de manières qui me convenaient, mais pas du tout. Loin de là, c'était vraiment au contraire... pas du tout ma manière de...
Ben, besoin d'air, quoi.
Hein. Ouais, j'avais besoin aussi de gentillesse.
Important ça quand même.
Ah non, mais
quand même parce que l'éducation est là serait bon ça, on va pas être ça va pas être notre débat d'aujourd'hui mais on voit bien que en filigrane il y a aussi effectivement comment peut-être les endroits d'éducation dans notre propre pays sont plutôt là pour accompagner l'individu à peut-être trouver ses rails de réalisation que plutôt de le modéliser, de le mettre en compétitivité, de le mettre en difficulté aussi et puis renforcer cette entre guillemets animosité, compétence individuelle et collective qui fait que du coup, on arrive à des choses compliquées, d'ailleurs que l'on voit très fortement aujourd'hui.
Alors, je ne voulais pas de tout ça. Et je ne savais pas qu'en Belgique, ça n'était pas comme ça. Mmh. Mais pourtant, je me suis dit, bon, je vais aller voir, je suis allée voir où c'est qu'il y avait des écoles de photo, parce que c'était sûr, oui. Je voulais faire de la photo. Et j'ai passé le concours de la Cambre en oui. Belgique, et je l'ai eu.
Merveilleux.
Ça, c'était vraiment déjà une super histoire parce que c'est quand sûr. Je suis arrivée pour passer le concours, c'était une semaine de concours en
fait. Ah oui, donc un long, beaucoup d'épreuves.
Voilà. Et le premier jour, j'ai rencontré une jeune femme et puis son mari était photographe. Elle m'a invitée chez elle. Mmh. On a fait les tirages chez lui. Ah enfin, oui. Ça a été vraiment parce
un
que
moment fort,
on a
voilà
un
aussi.
Super fort. Et puis. Je suis rentrée dans l'école et c'était vraiment génial. C'était une école extra. Et il y avait Gilbert Fastenakens. En effet. Et là, c'était quelqu'un de très jeune, très jeune ouais. photographe. Et il nous a vraiment guidés et accompagnés dans la réalisation de ce qu'on avait à dire, nous, pas
oui,
du tout dans quelque
dans
chose.
Imposer
de
une manière de faire, ou voilà. Mais plutôt essayer de faire émerger ce que vous pourriez faire.
Faire émerger. Et il ouais. avait quelques années de plus que nous, mais il était dans un groupe de photographes à l'époque. C'était vraiment la mission Adatar. C'était une mission photographique qui a eu un grand impact sur la vie des photographes. Et lui, il était dans cette mission avec des grands photographes. Et il les faisait venir et on ne se rendait même pas compte de
qui était là finalement.
Mais non, mais après, rétrospectivement, oui. Quoi, mais
bien sûr, bien sûr.
Et lui, il avait quelques années de plus que nous, donc c'était vraiment marrant.
Il y avait
marrant,
un rapport
en fait.
Direct, proche.
Très, très proche. Mmh. Et de toute façon, c'était la mentalité de l'école. C'était amener les personnes à trouver leur chemin dans la bienveillance. Quoi. Ça a l'air un peu cucu comme ça, mais en fait...
Je crois qu'on devrait remettre ce terme à la mode aujourd'hui.
Tellement, quoi.
On manque de bienveillance aujourd'hui. Quand
mais
même,
à l'école, là, c'était quand en fait ils disaient ah mais ça, ce que t'as fait, c'est vraiment super. C'est... Au lieu de dire bah non mais ce truc là oui. est nul quoi.
C'est
non,
ça.
Ils voyaient les choses super, enfin
de
manière
positive et d'un
œil
bienveillant comme on le disait et en tout cas de chercher à comment on peut faire avancer l'autre.
Comment on peut faire avancer l'autre, c'est ça. Et donc Gilbert, il a été dans ce processus quelqu'un de très important parce que il avait cette manière de travailler très lente. Mmh. Il avait tout un cheminement avant de faire les photos. Il travaillait ouais. à la chambre. Et c'est marrant que vous reparliez de lui parce que j'ai fait dernièrement des photos ouais. à Saint-Nazaire
ouais.
et je les ai faites de nuit. Et lui, un de ses grands travaux photographiques, c'était des nocturnes.
C'était
des
nocturnes.
Et c'est rigolo de repenser à ça. Et quand je faisais les photos de nuit, je repensais pas forcément à lui, mais forcément il était là, quoi.
Et oui, et oui. Donc là, vraiment un moment très fort. Je pense qu'il a donné encore un peu plus d'ancrage si je peux utiliser ce terme-là, ou renforcer, voire même les axes, les manières de faire que vous aviez, vous, ensuite envie de conduire dans
votre démarche. Oui, absolument. Et parallèlement à lui, il y avait une historienne de l'art, parce que c'était aussi des gens, tous des gens jeunes dans cet atelier. Donc, c'était organisé par atelier. Hein. Ouais. Et donc, elle s'appelait Anne Waters. Et elle était historienne de l'art spécialisée en photographie. Et je suis arrivée là, elle nous donnait cours. Et on a commencé à entamer un dialogue. Et en fait, après le cours, on s'est retrouvés sur le trottoir. Et on a commencé à parler, à rigoler, à parler. Et en fait, c'est devenu une amie, en fait. Ouais. Et elle a fait énormément pour mon travail. Elle m'a fait beaucoup d'expos. Elle a écrit beaucoup sur mon travail.
Formidable.
Mais on s'est rencontrés. J'avais 22 ans, quoi. Ah. Et elle a tout le temps été auprès de moi. Elle a fait du commissariat d'expo. Donc, elle a montré beaucoup mon travail. Mais ça s'est passé à la Cambre, en fait.
Donc là, une rencontre déterminante, et on voit bien comment les rencontres, hein, bien évidemment, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais voilà, c'est bien les rencontres qui nous construisent, c'est bien les rencontres qui ouvrent des chemins, et la nécessité de la rencontre, justement, et de la prise de risque aussi, parce qu'il y avait prise de risque quelque part, quitter un endroit dans lequel vous vous étiez plus ou moins à l'aise, s'expatrier dans un autre endroit. Et donc, du coup, il y a la prise de risque de se dire, je vais quand même à l'aventure, je vais quand même vers un inconnu. Mais c'est ma propre démarche qui fait qu'elle va générer aussi toutes ces possibilités nouvelles qui, petit à petit, s'offrent à nous, à moi, dans la démarche que j'insinue en faisant ce geste de départ, finalement.
Tout à fait.
Donc, continuons encore avec des moments déterminants. Alors, j'en passe un peu, sauf si, bien sûr, vous avez envie d'en dire aussi un petit peu plus également, mais vous évoquez cette femme qui va donner des places et des possibilités de faire découvrir à des publics plus larges, mais il va y avoir des commandes publiques qui vont se faire pour vous, aussi bien au Centre National des Arts Plastiques, au Musée André Malraux au Havre, puis vous exposez en France et à l'étranger. Il y a aussi, bien sûr, un moment donné où vous avez aussi entre Paris et Rome, avec ce séjour aussi à la Villa Médicis. On est plutôt dans les années 2007. Je ne sais pas si vous avez envie de rebondir sur ces périodes-là. Mais en tout cas, va aussi arriver une autre période, un autre moment aussi important pour donner un peu un aperçu un peu de votre parcours à nos auditeurs et auditrices en 2015. Et là, en 2015, c'est encore une rencontre, en réalité, qui va se passer, qui va vous amener vers un autre matériau, et avec le maître verrier Pierre-Alain Parot. Et là, c'est une autre découverte pour vous.
Oui, oui. Alors, on est passé très vite, bien sûr, sur tout mon parcours et toutes les choses qui se sont passées entre sortir de l'école et arriver au vitrail. Mais après, je ne sais pas si on a le temps de parler
de tout
ça.
Bien sûr, nous pouvons.
Mais...
on peut prendre le temps. On a dit qu'on parlait du temps et qu'on se donnait le temps. Donc, nous pouvons nous donner le temps.
Mais bon, de toute façon, en résumé, en effet, ce sont toujours des rencontres qui font que les choses avancent.
C'est ça.
Et il y a eu, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens extraordinaires, et autant des femmes que des hommes qui ont permis que des choses se passent qui étaient vraiment merveilleuses pour une petite fille qui est née au Vaine.
Tout à fait, dans ce quartier de Bourg-en-Bresse.
Je trouve que quand même, j'ai eu vachement de chance, quoi. Et
est-ce que peut-être dans les rencontres, quand on a évoqué un petit peu plus la partie jeunesse ici à Bourg-en-Bresse, il y avait l'aspect musical, est-ce que dans les rencontres, elles sont, on peut garder le côté plastique, photographique, mais est-ce qu'elles ont pu être aussi pluridisciplinaires ? C'est-à-dire, est-ce que votre travail a permis de croiser, je ne sais pas, à certains moments donnés, des chorégraphes, des danseurs,
toujours.
Des comédiens ?
Oui, voilà. Toujours des comédiens, grands magasins. Pascal Murtin, François Hiffler, Jérôme Bell, le chorégraphe, Nicolas Végrove, un compositeur, des plasticiens, des photographes bien sûr, mais oui, c'est toujours très ouvert et très...
C'est ça, c'est ce qu'on sent, hein, que c'est vraiment ouvert très très large et que du coup forcément des rencontres multiples justement viennent nourrir petit à petit le travail.
Et donc pour revenir à la photographie, quand je suis sortie de la Cambre, je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. J'ai pris un livre qui s'appelait « La Bible de la photographie ». J'ai regardé tous les noms des gens et puis je leur ai téléphoné.
Excellent.
Mais je ne les connaissais pas et j'aurais dit, ben, j'ai un truc à vous montrer, c'est mes images.
Et personne, ça a marché.
Personne ne m'a reçu, sauf Agnès de Gouvion-Saint-Cyr, qui était la déléguée ministérielle de la photographie au ministère de la culture.
Je veux bien vous rencontrer.
Et elle m'a rencontrée. Et en fait, étincelle. et elle était vraiment, c'était vraiment une personne hors du commun. Ouais. Et elle a dit, enfin, elle ne savait pas trop quoi dire, en fait. Ouais. Mais je pense qu'elle a, elle a comme Villatte et comme certaines personnes...
Elle a senti, elle a compris.
Elle a pensé qu'il y avait peut-être possibilité de, que ça, voilà, qu'on puisse cheminer un moment ensemble. Quoi.
C'est ça.
Et elle a commencé à me donner des commandes du ministère et à faire acheter mon travail par le Fonds National d'Art Contemporain.
Ce qui était super.
C'était génial. Et elle a été vachement présente quand j'ai postulé pour la Villa Médicis. Hmm. Et donc...
Là, ça a dû être un moment merveilleux aussi, la Villa
voilà,
Médicis.
Voilà, et c'était... parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, ce qui est très important dans mon travail, c'est aussi de faire attention à quiconque se présente, enfin, ou quel que soit... Voilà, et... Donc, nous, on est issus d'un milieu assez modeste, enfin, pas... Voilà, mais quand même, quand on vient des Vennes et qu'on se retrouve à la Villa Médicis...
C'est quand même un sacré
Ouais, c'est
écart.
Énorme, en fait. C'est un super gap, quoi.
Absolument.
Et il faut gérer ce gap aussi, mais en même temps, c'est vraiment génial, quoi.
Tout à fait. Et vous avez mené quel type de projet particulier à la Villa Médicis ?
Eh bien, j'ai fait un travail sur les natures mortes.
Oui.
Parce que la villa, c'est vraiment un endroit patrimonial avec où beaucoup de peintres sont passés. Il y a eu Ingres, il y a eu Balthus, et c'était vraiment évidemment plus toute la peinture et la sculpture romaine. Il y avait vraiment quelque chose de l'histoire de l'art et en même temps quelque chose de très mélancolique. Oui. La façade de la villa, c'est fait avec des sarcophages où il y avait morts, quoi.
Ouais. Donc il y a quand même ce côté-là aussi, un peu particulier, effectivement.
Et donc il y avait les deux qui étaient mélangés, la beauté et la mort, et j'ai fait les natures mortes. Et en marchant dans la rue, dans les rues romaines, le matin très tôt, parce que sinon, pour faire des photos à Rome, c'est impossible.
C'est un peu, difficile.
Et ben, j'ai découvert les sans-abri qui dormaient dans la rue. Et là, je suis restée à Rome après la Villa Médicis pour faire la série Les Invisibles.
C'est ça. Magnifique aussi, ça.
Voilà, qui est une série sur les sans-abri qui dorment dans la rue, devant des portes closes de bâtiments magnifiques.
Magnifique travail. Et là, on ressent, on parlait du politique de la démarche tout à l'heure.
Ouais,
là aussi,
sûr.
Cette manière forte de pouvoir... c'est là où encore, quand on parlait de Pedro Costa tout à l'heure, j'y reviens, mais parce que je sens qu'il y a cette sensibilité qui est proche. C'est-à-dire, c'était pas là pour du reportage pour du reportage, pour mettre en lumière d'une certaine manière un certain misérabilisme des choses, mais c'est juste... de comment poser le regard.
C'est ça, c'est donner la place à tout le monde, en fait.
Exactement.
Et donc, ce que j'avais envie, après, quand les sans-abri se réveillaient, j'ai parlé avec eux, j'ai fait des portraits, on a fait montrer des objets aussi qu'ils avaient gardés, que j'ai photographiés. Et puis, voilà, j'avais.
Et ça, c'est un travail qui a duré combien de temps ?
Deux ans.
Deux ans. Oui, donc là aussi, on parlait du temps, de la temporalité tout à l'heure. Voilà, de faire ce travail en profondeur et d'approche. Parce que ce n'est pas toujours simple non plus d'approcher.
Non, bien sûr, c'est long.
C'est long.
Donc voilà. Et donc, tout ça pour arriver au vitrail, bien sûr.
Bien sûr, qui est une autre étape encore.
Voilà, donc c'est après les sans-abri. J'étais un petit peu arrivée au bout de certaines choses photographiques. Et je m'en ouvre à des amis. Et puis, on me dit, il y a aussi une série dont on n'a pas parlé, c'est « Ceux qui ont la foi ». Donc, il y avait quelque chose qui était important aussi par rapport à la spiritualité.
C'est ça.
Et donc, quelqu'un me dit, il va avoir un vitrail qui va être fait. Ils vont faire une commande pour un vitrail. Et photographiquement, j'avais l'impression d'avoir atteint quelque chose,
Ça, ouais.
Et c'était le moment
de pouvoir
basculer
ou aller vers une autre manière de faire.
Voilà. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure.
Donc, c'est un vitrail de la cathédrale de Strasbourg.
C'est ça. Donc, il a fallu concourir. Il y a eu deux étapes de concours. Une première étape, c'était une lettre. Donc, oui. J'ai fait une belle lettre. Très belle. Voilà. Et je l'ai fait lire aussi à des amis qui m'ont aidée. Ouais. Je travaille beaucoup, très entourée.
Très entourée. Hein, y aller.
Ouais. Et voilà. Et ils ont sélectionné ma lettre. Et après, après la lettre, on était cinq et il fallait faire une esquisse. Voilà, pendant 4 mois, on a eu
la possibilité.
4-5 mois pour faire une esquisse.
C'est ça.
Et une note d'intention. Savoir d'accord. Qu'est-ce qu'on voulait faire de cette verrière de 7 mètres de haut sur 4 mètres de large dans la cathédrale de Strasbourg.
Impressionnant, ça. Impressionnant.
Très.
J'imagine. Hein. Et donc, du coup, là, vous n'aviez jamais travaillé le verre et il y a toute cette approche-là.
Jamais. Ça a été d'ailleurs assez merveilleux et flippant à la fois.
Certainement.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur la note d'intention, qu'est-ce que je voulais mettre dans le vitrail.
Ouais.
Et puis, j'ai rencontré un maître verrier qui m'a dit...
Pierre-Alain Varro.
Non, justement pas.
Un autre. Alors,
un autre qui m'a dit non, mais on n'a jamais vu de la photo dans le vitrail, c'est pas possible. Et je suis rentrée chez moi tout à fait déprimée.
Oui.
Et j'ai reçu un mail le jour même, et c'était un mail de Pierre-Alain Parot. Et il disait oui, j'ai vu que vous aviez été sélectionnée pour le concours, est-ce que vous cherchez un maître verrier? Et je l'ai appelé, et il m'a dit, je lui ai dit ben oui, je cherche quelqu'un, mais c'est un projet un peu compliqué. Il m'a dit ok. Je lui ai dit vous êtes libre quand pour que je vous en parle? Il dit quand vous voulez. Je lui ai dit demain, et il dit oui.
Okay.
Et il est venu et je lui en ai parlé. Il a dit ok, c'est bon, on va le faire.
On fait. C'est génial.
Voilà.
Là aussi.
Ben ouais.
Sacrée aventure, ça, hein, parce que c'est la dimension, la réalisation d'une nouvelle manière de faire aussi.
Ah bah oui, c'était
plein d'enjeux multiples, quoi.
C'était
finalement.
Incroyable, quoi. C'était vraiment, c'est une émission de Radio B à elle toute seule, quoi.
J'imagine amplement. Et la durée de ce travail?
2 ans et demi.
Deux ans et demi. Ouais, c'est énorme là aussi.
Ah, c'est un grand bébé quand même. Hein.
Quand même. Hein, voilà, ouais.
8 mètres de haut.
Oui, j'ai vu quelques photos. On vous voit à côté de cet immense vitrail en train de travailler. On imagine la dimension justement.
Voilà, et ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Il y avait une designer graphique qui a travaillé avec moi, Zabou Carrière, Pierre-Alain Parot, toute l'équipe de Parot.
Ouais, ça, Boris, c'est une grosse Tissot, équipe.
Toujours, c'est toujours. Ouais. Et puis, il y a toujours ma famille autour de moi. Je leur pose toujours plein de questions. Ils sont toujours. Je sollicite beaucoup les gens autour de moi. Ils sont très patients, je trouve.
Oui, le travail en équipe, c'est quelque chose aussi d'essentiel pour vous.
Oui. Oui, je suis jamais seule. Enfin, si, il y a des moments où je suis seule. Mais...
Certainement, mais en tout cas, de pouvoir faire que toute cette avancée artistique, elle se passe aussi avec
toujours.
Un réseau de personnes.
Toujours.
Toujours à vos côtés.
Oui.
Alors, en parlant aussi un peu de cette ouverture, on passe aussi de la transparence, on parlait d'image aussi, de la lumière, c'est notre rapport à la lumière, notre rapport à l'image, notre rapport à la transparence aussi. Ça a dû changer quelque chose aussi dans votre manière après de faire de la photo?
Oui, ça a changé. Et puis surtout, ça m'a réconcilié avec la photo. Comme je vous disais, j'étais un petit peu, pas fâchée, mais un peu, j'avais l'impression que j'étais un peu allée au bout.
Et finalement,
non.
Voilà. Ça a réalimenté le
voilà,
besoin.
Voilà, ça a
de...
réalimenté pour, par plein de directions différentes.
Ouais.
Ça a bien dynamisé et puis ça a beaucoup changé de choses en fait.
Alors là aussi, faut donc rappeler que c'était la création, le vitrail du millénaire hein, de la cathédrale de Strasbourg, et puis que ça a obtenu aussi un prix, le prix de l'intelligence de la main, catégorie dialogue, de la fondation Bettencourt-Schouler. Et là aussi, quand quelque part, le prix de l'intelligence de la main, effectivement, cette intelligence de la main, le fait d'évoquer la main, alors on va voir comment ça résonne pour vous, mais ça m'a amené vers un autre parallèle auprès d'une écrivaine, Hélène Cixous, qui, dans tout un ouvrage qui s'appelle « Les lettres de fuite », qui sont un petit peu le compte-rendu de nombreux séminaires qu'elle a pu tenir elle-même, dans un un de ces passages, dans un de ces moments de ce séminaire, elle parle aussi de la main, du métier. Elle s'interroge, par exemple, où elle dit « Est-ce qu'il y a des mains vraies, des mains qui ne mentent pas ?» Il y en a des vraies, il y en a des fausses, des mains de feinte, des mains de fuite, des mains fuyantes, plus des mains en transition, des bras ou des mains qui sont en train de se métamorphoser en autre chose. Et puis elle souligne encore, alors là quand on parle du verbe, le métier, etc., que effectivement le métier en allemand c'est Handwerk, c'est-à-dire travail de la main. Elle poursuit aussi. Finalement, en évoquant aussi les musiciens, quelque part, où la main est très prégnante, elle dit ceci, pour les musiciens, la question de la main doit être primordiale. Je suis persuadée que quelque chose se passe d'extraordinairement intense et complexe avec les mains ou avec la main des 10 interprètes d'œuvres. Alors, comment vous percevez par rapport à ce que dit Hélène Cixous, mais aussi dans vos propres démarches, parce que la main, elle doit être hyper présente que dans la manière plastique, mais aussi dans le déclenchement. Comment ça vous parle, vous, ce rapport à la main ?
Je trouve déjà la citation très très belle, parce que évidemment, la main, c'est essentiel, quoi. Oui. Et ça m'évoque, alors, encore une fois, je suis désolée, mais je ne connais pas assez bien Hélène Cixous, je suis désolée.
Sans souci, c'est les rencontres aussi.
Mais oui, voilà. Je vais m'y plonger, en tout cas. Après qu'on soit séparés. Mais. Par exemple, quand je faisais les photos des sans-abri, il y avait un sans-abri avec qui j'avais pas mal échangé. Et je lui dis, qu'est-ce que vous gardez comme objet alors que vous êtes sans arrêt avec des tout petits paquetages ?
C'est ça,
oui. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous gardez comme objet. Et il me dit, je vais te montrer quelque chose. Et il a sorti une bague. Complètement improbable, comme une bague de cardinal avec un gros rubis. Mais je ne sais même pas si c'était un vrai rubis ou pas. Et en fait, il l'a mis à sa main, à son doigt. Et il faisait très chaud. C'était presque midi. Et on s'est mis au soleil. Il a mis la main, il a apposé sa main contre le mur, mais en la laissant très délicatement... une pose très jolie et délicate.
Ah, c'est beau, ça.
Et j'ai photographié ça.
Ouais.
Et c'était incroyable, quoi. Cette main, elle est géniale. Et cette bague, en plus, il a un peu les ongles sales. On voit bien que c'est une main qui a,
une
histoire.
Ouais.
Et il a cette bague avec cet énorme rubis. Et voilà, c'était vraiment un truc incroyable. Voilà. Et une autre petite anecdote que m'évoque la main, c'est mon ami collaborateur, artiste Boris Tissot. Il est sculpteur de biscuits.
Ah, sculpteur de biscuits.
C'est pas les biscuits de la porcelaine.
De la porcelaine, oui.
C'est les biscuits qu'on mange. Et il fait beaucoup de sculptures de mains.
Excellent.
Dans lesquelles il écrit des choses.
Ah,
et
oui.
Il faudra que je vous montre ça parce que
volontiers.
C'est vraiment superbe.
Ah oui, ça doit être très très beau à découvrir, voilà. Ça.
Donc, on peut manger des mains de Boris Tissot.
Oh, extraordinaire, ça. Extraordinaire. Alors, du coup, ça permet aussi de faire un petit peu tout ce parcours là déjà qu'on vient de faire ensemble. Et merci déjà de tout celui-ci. À un moment donné aussi dans une interview, mais on va le comprendre, je pense, aisément avec tout ce que nous venons déjà de dire, vous soulignez que être artiste m'a permis d'être. Ce serait chose très fort aussi, tout ce... Et on le comprend déjà au travers de tout ce que vous venez de nous livrer dans notre échange, que finalement, cette démarche petit à petit, quand on parlait des veines tout à l'heure, et quand tout ce parcours, tout ce voyage aussi, petit à petit a permis de faire émerger l'être que vous êtes ou qui était en devenir. Ou qui reste encore en devenir.
C'est ça. Et c'est un message que je voudrais vraiment faire passer très largement, en fait, aux jeunes, mais même pas forcément aux jeunes, à tous, que c'est vachement important, mais c'est un peu banal de dire ça, mais de suivre ses rêves et son instinct. et que qu'on est tous, enfin voilà, que c'est possible, c'est possible. Un autre monde est possible. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais
tout à fait.
C'est-à-dire on
croire aussi un petit peu en ces choses qu'on peut penser à son plus profond intérieur, mais que c'est que justement cet impossible peut devenir possible et cette culture de l'impossible est intéressante à rendre possible.
C'est ça. Et puis faut pas s'enfermer soi-même. Et ce que j'aime bien quand je rencontre les gens, c'est aussi de leur faire passer ce message.
Oui.
Allez-y, go quoi. C'est possible de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, même si vous avez, vous savez pas exactement ce que c'est. Allez-y quoi.
Ça me paraît un très beau message.
Je ne suis pas un nationaliste, j'ai pas les cuisses de ces cyclistes, j'ai trop froid pour être unitiste. Allez, allez, circulez avec mon cul de vieux pépé. J'aime les femmes et j'aime les autres, et comme j'ai déjà dit, vive les petits zézés. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Oh. Courte deck, stuck to the zestecken, a long within and do two faben, got the clinch much heat, father! Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Wow. The rich may be rich and the poor may be poor, they all have two holes in their nose. Bye-bye Brexit, bye-bye Brexit, we're still gonna eat fish and chips. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Yo. Ta 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 ta.
That perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. Thank you. sweetest in the gale is heard. And sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm, so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. It asked a crumb.
Résonance sur Radio B. Pour moi, la photographie est fondamentalement un acte de contemplation. Véronique Helena. Les choix musicaux de Véronique Helena dans cette émission vous ont permis, chers auditeurs et auditrices, de découvrir, d'entendre ou de réécouter tout d'abord Putain Putain dans une version piano-voix du chanteur Arnaud, disparu en 2022, et une grande figure emblématique du rock belge, pleine d'énergie, d'inventivité et de qualité de texte aussi étonnante. Et là, il était associé, accompagné au piano par Sofiane Pamart. Putain Putain fait partie du disque Arnaud Vivre, que l'on trouve dans la collection Parce que. Ensuite, Véronique Helena nous a proposé de découvrir, de vous faire découvrir The Nobody Project, un groupe de rock alternative avec le titre Hop, une musique composée par Henry Grove et à partir d'un texte d'Emily Dickinson. Résonance sur Radio B. Pour moi, la photographie est fondamentalement un art dédié à tout ce qui fait la poésie et la profondeur du quotidien. Véronique Helena. Peut-être un grand merci à vous, Véronique Helena, de nous avoir accueillis ici, à l'AFPA, et nous avoir emmenés dans ce parcours incroyable.
Ben, merci à vous de m'avoir écouté déjà et puis de vos questions et de cet échange parce que c'était vraiment très agréable aussi.
C'est ce que veut être Résonance en tout cas, et j'espère aussi, chers auditeurs et auditrices, que vous avez eu plaisir aussi à cheminer dans cette conversation, puisqu'il s'agissait bien d'une conversation aujourd'hui avec cette artiste plasticienne, photographe qu'est Véronique Helena. Cette émission de Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, réécouter quand vous le souhaitez et aussi longtemps que vous le souhaitez la présente émission ainsi que les précédentes sur le site de Résonance Contemporaine, Résonance Contemporaine www.fr.org, pardon, et sur le site de Radio B www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et à très vite sur Radio B.